With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si nous quittions un peu nos chaussures pour devenir de meilleurs coureurs? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. D'ailleurs, si votre défi est de courir vous aussi un marathon, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon tout premier marathon, mon marathon d'anniversaire qui a aussi lancé ce podcast. Et je vous livre aussi mes conseils complémentaires pour le réussir. Vous pouvez aller sur l'adresse km42.run/9erreurs avec un S et vous pourrez télécharger gratuitement ce petit guide avec mes erreurs et mes conseils. Maintenant, vous le savez, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Alors, toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et des personnes inspirantes, en voilà une. Je peux vous garantir qu'après avoir croisé et découvert les enseignements du personnage dont nous allons parler, vous ne voudrez plus courir de la même manière. Vous serez impatient de découvrir la recette miracle, le secret de ce personnage. Pieds nus avec sa longue barbe blanche, ses shorts colorés, ses t-shirts amples qui cachent un ventre un peu rond, ou même très rond par moment, Ken Bob Saxton ressemble à un gourou. Mais quand on pense gourou, on pense à secte. Et là, je vous parle plutôt du mot gourou au sens de son origine du yoga, vous savez par exemple. En sanskrit, gourou signifie lourd. Alors le gourou porte en lui la sagesse. Il est composé de gou, ce qui signifie de l'obscurité, et roux, à la lumière. Ce qui veut dire donc très clairement que le gourou est celui qui montre le chemin après l'avoir lui-même trouvé. Et cette définition va très bien à Ken Bob Saxton. Il n'est pas un ancien athlète de haut niveau qui nous explique comment courir de manière académique. Il a couru son premier marathon à 32 ans, un peu façon défi. Il a terminé épuisé en 5h05 en ne supportant plus ses chaussures. A alors commencé la métamorphose pour devenir Barefoot Ken Bob. 10 ans plus tard, en 1998, il court son premier marathon pieds nus en 4h34, puis enchaîne. Certaines années, il court 12 ou 16 marathons, dont 4 en 3 semaines en 2006. À ce jour, il a 65 ans et a couru 79 marathons pieds nus. Il détient un record en 3h18, s'est qualifié pour Boston et a couru son meilleur 5 km au rythme de 3 minutes 33 secondes au kilomètre, soit un 5 km en un peu moins de 18 minutes, autant dire que je suis incapable de le suivre. Depuis 30 ans, Ken Bob Saxton a développé toute sa philosophie autour de la course à pied. Il a étudié la mécanique du corps, testé des choses, appris avec la communauté rassemblée autour de son site. Et il explique dans son livre comment courir plus vite, avec moins de chocs, moins de blessures et surtout comment prendre son pied en courant et tout ça sans chaussures. Alors attention, hein, Ken Bob ne vous dit pas de courir tout le temps pieds nus, mais qu'il faudrait régulièrement courir pieds nus pour redonner à nos pieds leur capacité et il explique exactement pourquoi et c'est vraiment très 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 intéressant. Écrit il y a 10 ans environ, ce livre a été traduit en français cette année et depuis que je l'ai entre les mains, je découvre un nombre de choses vraiment incroyables sur les pieds, le fonctionnement du corps et la course à pied. Et il ne fait que conforter mon évolution minimaliste. Hein. Après les sandales, je cours en effet pieds nus chaque semaine depuis cet été et je peux dire que j'y prends mon pied pour reprendre les termes de Barefoot Ken Bob. J'ai donc eu envie d'en parler. Alors ne pouvant inviter le gourou directement, j'ai invité le traducteur du livre. Sylvain Griot a découvert le livre il y a quelques années, il nous explique comment et a constaté tous les bénéfices sur sa foulée. Ensemble, nous avons discuté du personnage Ken Bob, de sa philosophie, du livre, de la course à pied pieds nus, des bénéfices que Sylvain a constaté lui-même et notamment comment il a amélioré très largement son temps sur un semi-marathon en seulement 6 mois et en courant pieds nus. Et si vous êtes convaincu d'acheter le livre après cette discussion, je vous glisse bien entendu le lien dans les notes de l'épisode. Alors je dois vous prévenir, c'est un lien affilié, il ne vous coûte pas plus cher à vous quand vous l'achetez, mais votre achat me rapporte quelques centimes pour devenir sportif pro à ma manière. Maintenant que vous savez pourquoi je voulais absolument parler de ce livre et de Barefoot Ken Bob, je vous laisse avec ma discussion avec Sylvain et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup beaucoup de choses parce que c'est vraiment très intéressant de découvrir comment fonctionnent réellement nos pieds et notre corps. C'est parti. Bonjour Sylvain.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Et toi?
Oh, ça va très bien. Écoute, moi, quand on est là pour parler course à pied, ça me va bien. Et pour parler de
Super.
sport. Alors, je vais te laisser te présenter et on verra tout de suite de quel sujet on parle. Mais j'ai envie de savoir quel genre de coureur tu es.
Alors, je suis Sylvain Griot, je cours depuis 15 ans et depuis 10 ans, je cours la plupart du temps sans chaussures, je cours pieds nus. Voilà.
Pieds nus, hein, je veux dire, pas de five fingers ou quoi que ce soit.
Alors, je cours vraiment pieds nus et je cours aussi avec des chaussures minimalistes ou avec des sandales, mais la moitié de mon entraînement, parfois plus, parfois moins, se fait vraiment pieds nus pour de vrai, sans protection.
Comment tu es arrivé à ce cheminement de finalement courir à pieds nus?
Alors, je crois que ça remonte à 2000. En 2010, j'ai 25 ans, je me mets à la course à pied, je me mets au semi-marathon tout de suite sur une invitation. Et pendant 3 ans, je pratique le semi-marathon, plus ou moins bien, parfois avec de grosses douleurs dans les genoux, parfois avec de grosses douleurs à la cheville. Voilà, donc ces 3 années où je découvre que la course à pied me fait le plus grand bien, mais qu'en même temps, elle me fait le plus grand mal. C'est un moment assez délicat. Et au bout de 3 ans, j'ai un copain qui me met dans les mains un super bouquin de Ken Bob Saxton. Qui explique que dès lors qu'on retire ses chaussures, on est un peu obligé de faire attention à ce qu'on fait et ça va nous inviter à construire une technique en fait beaucoup plus délicate, beaucoup plus précise et donc qui va provoquer beaucoup moins de blessures. Donc je suis assez conquis par le propos du livre, je m'y mets tout doucement, hein. Mais au bout d'un an, je suis déjà capable de courir mon premier semi-marathon pieds nus. Et c'est un moment assez génial parce que c'est un semi-marathon sans aucune blessure, ni dans les genoux, ni dans les chevilles, ni nulle part. Et en plus de ça, avec un chrono que j'avais jamais fait auparavant, puisque je fais 1h26. Et c'était génial, puisqu'en chaussures, je faisais 1h42 encore. Donc voilà, ça c'est en 2013 ou 2014, je sais plus. Et depuis, bah, je suis conquis par cette pratique et j'entretiens mon entraînement pieds nus. Je continue à courir avec des chaussures, avec des sandales sur des longues distances ou sur des terrains trop difficiles, mais toutes les semaines, j'intègre effectivement 20, 30, 40 km de pieds nus à mon entraînement pour m'assurer de continuer à développer une foulée précise et délicate. Voilà.
Qu'est-ce que tu t'es rendu compte des bénéfices de courir pieds nus pour toi en fait?
C'est vraiment ce livre de Ken Bob Saxton, et qui vient donc de sortir en français aux éditions Thierry Soukart, c'est moi qui l'ai traduit. C'est vraiment ce livre qui m'a expliqué dans les moindres détails toute l'utilité de la dimension sensorielle du pied, en fait. C'est vraiment un angle mort de la course à pied, de notre compréhension classique de la course à pied. C'est que le pied est un organe sensoriel qui est vraiment là pour sentir les choses, et cette sensation est là pour nous guider, pour nous dire si notre mouvement est délicat ou au contraire brutal. Et ça, c'est vraiment ce livre-là qui m'a amené à cette compréhension du corps humain. Personne ne m'avait dit, ne m'avait expliqué le pied de cette manière-là jusque-là. Et l'auteur de ce livre, voilà, qui a passé sa vie à défendre cette vision des choses, l'explique très très bien et très en détail tout au long du livre. Il y a 250 pages où il nous explique à quel point le pied est un organe de grande précision. Et à quel point il faut apprendre à l'écouter. Donc voilà, c'était un changement radical dans ma compréhension du corps humain et donc dans ma pratique de la course à pied. C'est vraiment la lecture de ce livre qui m'a, je sais pas, qui m'a proposé une vision radicalement différente de tout ce que je connaissais jusqu'ici de la course à pied. Ouais.
Et en fait, je comprends parce que le livre, moi, je l'ai dans les mains depuis quelques jours. Et je te remercie vraiment de l'avoir traduit parce que je pense que ça met entre les mains de beaucoup de gens une connaissance qu'on ne voit pas ailleurs, qui est en plus, il a vraiment une philosophie. C'est-à-dire que ce personne, enfin, c'est vraiment un personnage, quoi.
C'est vraiment un personnage, c'est un mec. Alors c'est pas un champion, hein, c'est pas quelqu'un qui a fait de la compétition à haut niveau, mais c'est quelqu'un qui a construit lui-même et tout seul sa compréhension de la course à pied, sa compréhension du corps humain. Bah, je vais faire un peu présenter son CV à Ken Bob Saxton. C'est un type qui aujourd'hui a 60 ou 65 ans, qui a couru plus de 500 compétitions sans chaussures, qui a fait 79 marathons sans chaussures. Sur semi-marathon pieds nus, je crois qu'il est descendu à 1h22 de mémoire. Voilà, donc il a 30 années de pratique, vraiment de pratique, d'exploration aussi. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à se poser beaucoup de questions sur comment faire au mieux, comment courir au mieux, comment courir de la manière la plus précise et de la manière la plus délicate. Et ensuite, qui a passé beaucoup de temps à transmettre son savoir, toujours de manière gratuite, bénévole, et vraiment de manière passionnée. C'est quelqu'un qui a fait de la course pieds nus un peu je sais pas, ça, sa grande passion. Et il a fait le tour des États-Unis pour expliquer à des milliers de personnes comment courir mieux, courir mieux grâce à la sensibilité des pieds. Et notamment, il y a eu aux États-Unis ce grand succès de Born to Run en 2010. Ça a été un raz-de-marée assez gigantesque. Tout le monde parlait des Vibram Five Fingers et tout le monde parlait de la course pieds nus. Mais Born to Run, il avait un problème, c'est qu'il expliquait. Donc, il partageait un enthousiasme pour des idées comme celle-là, mais il n'expliquait pas bien les choses. Il n'expliquait pas vraiment comment se mettre à la course pieds nus, comment se mettre à la course minimaliste. Donc, en ça, le livre de Ken Bob Saxton, qui sort 2 ans après Born to Run, je crois, est vraiment complémentaire. L'enthousiasme vient de Born to Run, on découvre des idées passionnantes, mais elles ne sont pas bien expliquées. Et du coup, Ken Bob Saxton vient nous prendre par la main, en quelque sorte, et nous dit, voilà. Il y a effectivement un grand intérêt à courir en chaussures minimalistes et il y a un grand intérêt à s'entraîner pieds nus, mais il faut comprendre tout un tas d'éléments et c'est là où ce livre est d'une grande richesse parce qu'il va dans les moindres détails et effectivement avec un point de vue qui est propre à l'auteur. C'est quelqu'un qui n'a pas été formé par le système classique, c'est quelqu'un qui s'est formé lui-même et ça a du bon parce qu'il nous propose quelque chose d'unique. Et qui vaut vraiment le coup, je crois, d'être entendu.
Oui, et c'est marrant parce que j'ai lu Born to Run il y a pas très longtemps, et moi, le personnage que j'ai retenu dans Born to Run, c'était Barefoot Ted,
Ted, ouais.
qui est l'un des héros et qui est le fondateur des Luna Sandal en plus, hein, que pour
Exactement.
ceux qui font un petit peu les liens, etc., qui vraiment dans le truc. Et puis là, on voit un livre de Ken Bob, et puis c'est vrai que c'est marrant, c'est que sur la couverture, vous avez marqué Ken Bob est le maître, Christopher McDougall, hein, auteur de Born to Run, qui dit ça. Et c'est vrai que le complément, il est intéressant parce que c'est vrai que quand tu lis Born to Run, tu te dis, bon, courir en sandales, pieds nus, ça doit être bien, mais le mode d'emploi de courir quand on a couru en plus pendant des années en chaussures, il n'est pas simple, quoi. Toutes les personnes qui ont essayé d'enlever les chaussures, d'aller courir sur des terrains un petit peu difficiles, se rendent compte que c'est compliqué, quoi.
Exactement. Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant aux États-Unis. Il y a eu le phénomène Born to Run. Et suite à quoi, en fait, tout le monde est allé acheter une paire de Vibram Five Fingers en se disant, waouh, ouais, il faut courir en minimaliste, c'est génial. En fait, il y a eu un grand quiproquo assez général. Les gens qui couraient avec des chaussures assez, qu'on va dire, classiques aujourd'hui, donc avec beaucoup de protection. On se sont mis à courir avec des Vibram Five Fingers extrêmement fines, extrêmement souples. Et puis, ils ont couru les mêmes distances que d'habitude. Ils sont allés courir 10 km, 15 km en Vibram Five Fingers. Et un grand nombre d'entre eux, bah, en fait, c'est cassé les métatarsiens, donc les os du pied, parce que la chaussure n'offrait pas la protection habituelle. Mais ni le pied ni la technique n'étaient préparés à une approche plus délicate de la chose. Et ça, le livre de Ken Bob Saxton, Courir pieds nus, l'explique très très bien en fait. Il nous explique à quel point on a des pieds qui sont atrophiés, la plupart d'entre nous, parce qu'on a passé une vie entière en chaussures. Jamais on n'a développé ni la force, ni la souplesse, ni la résilience, ni la densité osseuse du pied. Donc on a des pieds qui sont quasi morts. Et en plus de ça, on n'a jamais non plus exploré toute la précision nécessaire à une foulée naturelle. Donc, on se retrouve d'une part avec des pieds très fragiles et en plus de ça, avec une foulée particulièrement brutale. On met des Vibram Five Fingers et on se casse les pieds. C'est quelque chose qui est une histoire assez classique aux États-Unis à la suite de Born to Run. Donc, et c'est là toute l'intelligence du livre de Ken Bob Saxton, Courir pieds nus. C'est de dire, voilà, la chaussure minimaliste, elle est super parce qu'elle permet un mouvement naturel du corps. Par contre, il faut faire très très attention avant d'utiliser des chaussures minimalistes. Il faut, avant ça, explorer, on va dire, la vérité nue. Il faut explorer la dimension sensorielle du pied. Et le pied, il a un grand atout, il a comme un système de sécurité ou un garde-fou, qui est en fait la douleur. La douleur, elle est très très intéressante. Elle est là pour nous indiquer, en fait, si on est en train de s'y prendre correctement ou au contraire de se faire mal. la douleur sous le pied, en fait, c'est notre premier système d'alarme. C'est elle qui va nous dire attention, un, il faut s'arrêter parce qu'on est en train d'exagérer, ou elle va aussi nous suggérer de faire autrement, de faire avec plus de finesse, avec plus de précision. Et en fait, ce que recommande Ken Bob Sexton, il dit voilà, courir en chaussures minimalistes, c'est vraiment super, mais vraiment, il faut, avant de chausser des minimalistes, il faut passer par le pied nu pour prendre conscience de tous ces éléments-là, prendre conscience, un, de nos limites, prendre conscience de notre délicatesse ou au contraire de notre brutalité. Et c'est un moment d'exploration. Il recommande, lui, de prendre 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois à explorer le pied nu et uniquement le pied nu pour découvrir voilà, toute la finesse qui est nécessaire et pour découvrir ses propres limites, savoir jusqu'où on a le droit d'aller et à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut prendre du repos. Et ça, c'est un propos, je pense, très très intelligent, et encore une fois, qu'il est le seul à présenter de manière aussi évidente. Moi, j'ai beaucoup animé, par exemple, je suis beaucoup présent sur le site de barefootrunners.com, c'est un forum de coureurs pieds nus, assez international, et on a souvent vu des gens arriver sur le forum en disant « je comprends pas », je me mets à la course en Vibram Five Fingers, on m'avait dit que c'était génial, et en fait, je me suis cassé les pieds, je me suis cassé les genoux, etc. » Donc il y a vraiment, Born to Run a généré une grosse incompréhension sur la pratique minimaliste, et c'est là où Ken Bob Saxton vient vraiment nous expliquer les choses en détail, nous dire « le minimalisme, c'est super, mais avant ça, il y a toute une dimension sensorielle du corps humain à explorer pour comprendre 1000 choses. » Et une fois qu'on a compris ces 1000 choses, une fois qu'on a développé une foulée précise, délicate, alors on est prêt pour mettre des chaussures et aller s'amuser sur des longues distances et sur des choses plus difficiles. Voilà.
Ouais, et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est vrai que la dimension sensorielle du pied, moi j'en avais pas conscience, et quand il explique que le pied est sensible, qu'il est capable de ressentir les choses, qu'il est capable de faire beaucoup de choses, mais qu'on ne fait plus, tout simplement, parce
Ouais.
qu'on l'a enfermé, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience en fait.
Ouais, c'est vraiment un point révolutionnaire, je pense. Moi, ça me rappelle en primaire, on découvre un peu le corps humain, puis on nous apprend les 5 sens. On nous dit il y a l'odorat, il y a la vue, il y a l'ouïe, et puis il y a le toucher. Alors, le toucher, on nous parle de quoi? On nous parle de la main, en fait. On dit voilà, tu mets la main dans le feu, tu sens que ça brûle, et tu retires ta main du feu, très bien. Et il y a un grand angle mort, il y a vraiment un oubli majeur, bah c'est que le pied, il a exactement la même utilité. C'est la sensibilité, c'est le toucher. Sauf que le pied, lui, il est spécialisé dans quoi? Dans tout ce qui est pression et frottement. En fait, le pied, il est là pour nous indiquer avec quelle force on pose notre pied au sol et avec quel frottement on pose notre pied au sol. Il a vraiment le livre en question cite des études très intéressantes, et il y a une étude qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans le pied. Il y a tout un tas de mécanorécepteurs, donc de petites choses sensibles. Et dans le pied, c'est extrêmement sensible à quoi? Vraiment à la pression et au frottement. Notre pied est une machine pour sentir avec quelle force ou avec quelle douceur on pose le pied au sol. Et ça fait pas partie de l'enseignement classique à l'école primaire ou à la suite dans les cours d'EPS, hein. Jamais on nous a expliqué cette vision du corps humain, malheureusement. Et c'est en ça que je considère le propos de Ken Box Saxton comme essentiel, parce que complémentaire à tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Il y a quelque chose de... Il y a une évidence qui est là et qui n'est jamais dite. Et moi, ça m'a transformé quand j'ai découvert que mes pieds étaient utiles à quelque chose. On dit beaucoup con comme ses pieds. Et à mon avis, c'est révélateur de quelque chose, c'est qu'on n'a pas compris toute l'intelligence du pied. Voilà.
Ouais, et puis il y a un deuxième élément qui est primordial, c'est la fonction ressort des jambes. Ce qu'il explique, parce que c'est vrai que il y a tout le début du livre, il y a quand même beaucoup d'explications, y compris avec des choses scientifiques sur le fonctionnement du corps, etc. Et le côté ressort de la jambe, de tout ça, il l'explique extrêmement bien. Et c'est vrai que quelqu'un, quand on pense pas comment on court finalement, hein, mais on se rend compte de la mécanique, de course.
Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose. Quand j'ai repensé à mes cours de sport du collège, du lycée, donc quand on arrive au cours d'endurance, de course à pied, puis le prof nous dit, bah voilà, vous allez faire 5 tours de stade, et puis vous allez, il nous parle un peu de la respiration. Et en fait, jamais il nous dit, en fait, la course à pied est aussi une approche technique. Il faut aussi développer une bonne technique. Et je crois que c'est un problème qui est propre à la course à pied. Quand on va faire de la natation ou quand on va faire n'importe quel sport, du karaté, c'est uniquement de la technique. Dans tous les sports, on aborde l'apprentissage par un apprentissage de la technique. Et alors, quand on parle de course à pied, bizarrement, plus personne parle technique et tout le monde considère que c'est qu'une question de distance, d'intensité, de vitesse, etc. Et c'est là où Ken Bob Saxton, encore une fois, nous remet les idées en place et nous dit attention, 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 la première chose à faire quand on parle course à pied, c'est de développer une bonne technique. Une fois qu'on a la bonne technique, et bien super, on part sur des longues distances, on part sur des distances folles. Mais il y a bel et bien un apprentissage de la course à pied, de la technique de course à pied nécessaire. Et ça, c'est une idée très forte qui devrait, je pense, être affirmée et bien plus. Ouais.
Oui, parce que en plus, ce qu'on doit dire, c'est que il le dit lui-même, hein, c'est qu'il n'oblige pas les gens à courir pieds nus tout le temps. C'est vraiment aussi une forme d'apprentissage de la course, quoi.
Ouais. Alors là, il est assez génial aussi. Enfin, en tout cas, il a un discours qui est. C'est un discours qui est radical dans le sens où il dit il faut vraiment faire du pied nu, il ne faut pas se cacher derrière des chaussures minimalistes. Mais tout en étant radical, il n'est jamais extrémiste. Et il dit le but du jeu, c'est pas de courir des marathons sans chaussures. Lui, il le fait parce qu'il a les capacités physiques pour le faire. Mais il dit en fait, le simple fait d'intégrer un petit peu de pieds nus à son entraînement, que ce soit 5%, 10% ou 50%, l'important, c'est qu'il y ait bel et bien du pied nu pendant l'entraînement parce que ce moment pieds nus, c'est vraiment un moment d'apprentissage, c'est vraiment un moment d'exploration, de recherche. Et cette recherche, petit à petit, elle va nous amener à des conclusions. Petit à petit, on va comprendre de mieux en mieux comment créer un mouvement qui soit délicat, qui soit fin, précis, efficace. Et ça, c'est uniquement grâce à la sensibilité du pied. Et il explique très bien, il y a cette sensibilité du pied, elle a deux grands avantages. C'est que, un, elle est d'une extrême précision. Dès que je frappe le sol avec mon pied, ça me fait très mal et c'est très précis. Et en plus de ça, c'est immédiat. C'est vraiment un feedback qui est là tout de suite. Il compare la sensibilité du pied au coach, à l'entraîneur. En fait, l'entraîneur, c'est très intéressant parce qu'il va nous permettre de corriger la technique avec des éléments théoriques. Mais c'est un feedback qui va se faire sur le tard. Le coach va nous regarder et puis après il va nous faire un débriefing. Le pied, c'est tout de suite. Tu pratiques, tu cours avec une mauvaise technique sur un sol un peu difficile. En 30 secondes, tu vas comprendre que tu es en train de te faire mal et c'est tout de suite que la remise en question, elle va pouvoir s'initier. Donc c'est vraiment, il compare vraiment la plante du pied avec l'entraîneur. Il dit que c'est un entraîneur qui est en plus de ça extrêmement précis et avec un feedback immédiat. C'est
Oui.
dans l'instant que tu comprends ce qui se passe. Voilà.
Oui, avec un terme de feedback, hein, le retour des pieds, la sensibilité naturelle des pieds, qui est vraiment super bien trouvé. En plus, il explique extrêmement bien le retour, comment finalement les chaussures nous coupent de toutes les sensations et comment le fait de courir pieds nus. Et puis, alors, tous ceux qui ont testé, moi le premier, hein, quand je vais courir pieds nus autour de la maison, c'est vrai que on découvre que le terrain, il est totalement différent de ce qu'on a l'habitude, quoi.
Ouais, c'est totalement différent et c'est, je dirais, pour la plupart d'entre nous, moi j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai toute mon adolescence, je ne suis jamais sorti de chez moi sans chaussures, j'étais quelqu'un de constamment chaussé. Et du coup, pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment, tout d'un coup, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, un monde sensoriel qu'on n'avait jamais imaginé, qu'on n'avait jamais exploré. C'est tout d'un coup comme si on nous rajoutait une quatrième ou une cinquième dimension à la vie. Ah, il y a aussi l'aspect sensoriel et donc on sort de chez soi et on découvre plein de choses. On va découvrir les températures, c'est froid, c'est chaud, c'est tiède. On va découvrir les rayons du soleil sur la peau du pied. On va découvrir l'humidité, mettre les pieds dans une flaque. Et après, il y a toutes les textures. C'est vraiment une aventure très très riche. On va explorer un peu, voilà, l'herbe mouillée, le goudron rugueux. Il y a le sable, il y a les cailloux, plus ou moins difficiles. Il y a mille choses et c'est d'une très grande richesse. C'est une exploration d'une très très grande richesse. Il y a cette idée souvent il y a beaucoup de gens qui vont chercher l'aventure à l'autre bout du monde et là on a vraiment l'aventure sur le pas de la porte. Et c'est une aventure qui est en plus d'être très excitante, qui est vraiment riche d'enseignements. C'est un enseignement à côté duquel il faudrait surtout pas passer. J'en suis convaincu. Et l'auteur du livre l'explique vraiment très bien.
Oui, puis
Voilà.
il le fait en plus avec une manière. Alors, c'est partout, il y a des petits kenbobismes qui sont un petit peu ces aphorismes avec ces petites phrases qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une, franchement, la 12 sur l'histoire du chien qui sur les chaussures du chien. C'est est-ce que tu me conseilles d'aller promener mon chien pieds nus? Et absolument, mais depuis combien de temps porte-t-il des chaussures?
Voilà, alors c'est ça, c'est un point fort de sa pédagogie, c'est qu'il excelle, il est très bon pour nous remettre les choses en place, voilà, nous obliger, nous forcer à un changement de perspective. Aujourd'hui, toi, moi, tout le monde, la normalité, c'est la chaussure, on a grandi avec cette normalité-là. Et le pied nu, c'est quelque chose de surprenant, dérangeant parfois. En tout cas, inhabituel. Et lui, il nous dit, mais en fait, quoi? En fait, on était tous pieds nus et la normalité, elle est où? Il nous pose vraiment cette question. Elle est où la normalité? Effectivement, il suffit de regarder son chien, bah, on ne met pas des chaussures au chien. Et il se trouve que nous aussi, on est nés, à la naissance, on n'avait pas de chaussures. Et ça pose vraiment la question de est-ce qu'on en a besoin des chaussures? Voilà, il est très fort. Il a sur sa page internet, donc son site internet à lui, c'est barefootrunning.com. Et il y a la page de ses kenbobismes. Il en a 200 et c'est 200 phrases très courtes et à chaque fois très fines qui nous obligent un peu à reconsidérer les choses, à un changement de perspective sur la normalité et sur la chaussure et sur l'usage naturel du corps. Voilà, ça nous montre à quel point en fait on est déconnecté d'un usage naturel du corps, que le corps a été construit par la nature, par des millions d'années de darwinisme en fait. Il y a une logique, il y a une manière naturelle d'utiliser son corps, et en fait, plus on creuse, plus on se rend compte qu'on est très loin de cette manière naturelle d'utiliser notre corps, et on finit par le payer d'une manière ou d'une autre. Voilà, combien de coureurs ont mal aux genoux, combien de coureurs ont mal aux chevilles, au dos, etc. Ça s'explique tout simplement, ça s'explique par une foulée brutale, et cette brutalité, elle vient du fait qu'on a oublié on est passé à côté de la dimension sensorielle du corps. Et Ken Bob Sexton est très très fort pour nous le rappeler. Il y a beaucoup de blagues dans le livre et c'est jamais des blagues gratuites, c'est toujours des blagues qui nous remettent à notre place.
Ouais, et puis c'est drôle parce que tu vois, je me suis posé la question, mais l'invention de la chaussure, elle a 5500 ans. Donc ça veut dire que ça fait un bon paquet de temps quand même que l'homme essaye de mettre des chaussures et utilise les chaussures dans tous les sens. Alors bien sûr, on pense dans le running à toutes les inventions modernes des marques, etc., avec tout un tas d'innovations. Et lui, il arrive, mais vraiment sur une manière totalement différente de nous dire, bah oui, mais finalement, notre corps, l'équilibre de notre corps, le fonctionnement du corps, c'est finalement le meilleur ressort, parce que c'est vraiment le truc, hein, c'est la notion de ressort des jambes pour nous propulser. Et puis, il parle aussi de la gravité, de finalement, comme si on. J'ai le sentiment que c'est comme si on courait à l'envers, en fait.
Il y a vraiment une mauvaise technique, une mauvaise manière de courir et une très bonne manière de courir. Donc le très bon coureur, celui qui se fera jamais mal au genou, en fait, c'est quelqu'un qui va utiliser son ressort naturel, sa jambe. Et sa jambe, elle est constituée de trois grandes articulations, c'est la hanche, le genou, puis la cheville. Et en fait, le très mauvais coureur, souvent c'est le coureur trop moderne, celui qui a passé trop de temps en chaussures et trop de temps sur une chaise. C'est quelqu'un qui va courir avec des jambes très très droites. Et ça, on peut le retrouver. Il suffit d'aller faire un tour à Decathlon ou de regarder quelques pubs sur Internet. Tous les mannequins qui font des publicités pour un short ou une paire de chaussures, c'est des gens qui ont souvent une très mauvaise technique et on voit qu'ils sont en train de projeter devant eux une jambe toute droite, sans aucun fléchissement du genou. Et en fait, elle est là, la mauvaise technique. Le pied nu, naturellement, va nous inviter à fléchir le genou extrêmement, à faire une pleine utilisation de nos articulations. Et souvent, des gens qui n'ont jamais couru pieds nus, des gens qui n'ont jamais exploré la dimension sensorielle de la course à pied, oublient toute la nécessité d'un ressort naturel, donc d'un fléchissement extrême et du genou et de la cheville et des hanches. Voilà. Et donc, encore une fois, l'auteur du livre ne dit ne dit jamais qu'il faut tout le temps courir pieds nus et que c'est il dit bien que c'est le pied nu qui nous fait prendre conscience de toute la précaution nécessaire à une bonne technique, mais que la bonne technique elle se situe surtout en fait au niveau du genou. Un bon coureur, c'est quelqu'un qui va fléchir extrêmement les genoux, qui va il y a des éléments assez connus je pense de tes auditeurs, c'est une cadence très élevée hein, 180 pas par minute voire 200 pas par minute. Mais aussi et surtout vraiment un usage prononcé du genou. C'est vraiment dans le genou. Lui, en tout cas, résume la bonne technique au fléchissement du genou. Un mauvais coureur, un coureur trop moderne, on va dire, c'est quelqu'un qui oublie de fléchir le genou, qui a une jambe extrêmement tendue au moment de l'impact. Et un bon coureur, c'est quelqu'un qui aura un genou extrêmement fléchi au moment de la pose du pied. Et si tu me le permets, ça m'amène à un point, un autre point que je considère comme révolutionnaire du livre de Ken Bob, c'est sa critique de la terminologie. Il y a toute une critique qu'il est le seul à proposer dans le petit monde de la course à pied. On a un vocabulaire qui est en fait par nature traumatisant. On va parler de l'attaque. Il y a beaucoup de livres ou beaucoup de vidéos sur YouTube qui posent la question, est-ce qu'il faut attaquer par le talon ou est-ce qu'il faut attaquer par le médio-pied ou l'avant-pied, etc. Et alors Ken Bob, il arrive, il dit, mais en fait, attention, si on est déjà en train d'attaquer le sol, c'est qu'on est déjà en train de se faire mal, en fait. Donc lui, il dit, bah, au lieu d'attaquer le sol, on va peut-être essayer de poser le pied au sol, on va peut-être essayer d'atterrir, on va peut-être essayer d'épouser le sol. Et pour lui, c'est pas anecdotique. Il pense vraiment que, en fait, le poids des mots va avoir un impact énorme sur notre propre compréhension du corps et du coup sur notre pratique de la course à pied. Moi, je trouve ça. J'aimerais que les professionnels du sport aujourd'hui disent, en fait, mais oui, mais c'est évident. Pourquoi on est tous en train d'attaquer le sol? C'est par nature traumatisant. Et il va plus loin après. Il parle d'endurance. L'endurance, est-ce que c'est normal de passer sa vie à endurer? Est-ce que la course à pied, c'est une question de plaisir ou c'est une question d'endurer? Ça pose des vraies questions. Voilà.
Oui, alors, et ce qui est intéressant sur cette histoire d'attaque, c'est moi, tu vois, mon bureau, il est juste à côté de la rue, hein, il y a des gens qui passent en courant devant la maison, et des fois, j'entends le bruit qu'ils font, comme ils tapent avec les pieds, mais vraiment, ils tapent fort avec les pieds, hein, c'était vraiment, ça fait clac, 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 clac. Et je dois le dire aussi, c'est pas qu'une question par rapport au poids de la personne, parce qu'on pourrait se dire, moi j'étais un coureur lourd, je faisais 90, j'en ai fait 105 même à une époque, mais même des personnes toutes légères en apparence, des fois elles font un bruit quand elles courent, c'est impressionnant.
Ouais, alors effectivement, c'est le bruit du coureur va être un indicateur aussi sur la délicatesse ou la brutalité de la foulée. Et si le pied nu est une invitation à une exploration sensorielle de la course à pied, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le pied qui peut nous aider, il y a aussi l'oreille. L'oreille va nous donner beaucoup d'informations et plus on est silencieux, plus très certainement on sera délicat, précis et moins on aura de chances de provoquer des blessures au genou ou ailleurs. Et effectivement, c'est une invitation à une course beaucoup plus, comment dit Jean-Claude Van Damme, de awareness. Il s'agit vraiment d'être conscient de soi et être conscient de soi, c'est sous les pieds, c'est avec les yeux, mais c'est aussi avec les oreilles. Et on voit beaucoup hein, de coureurs qui courent avec de la musique dans les oreilles. Et c'est pas une critique, mais en tout cas, c'est certain que ça les coupe d'une certaine réalité, d'une certaine sensibilité. Et ils peuvent pas se rendre compte de quel bruit ils font avec leurs pieds. Et il y a des gens qui tapent, il y a des gens qui frottent aussi. Moi, j'entends, il y a un voisin qui court. Parfois, je l'entends à l'autre bout de la rue parce qu'il est en train de râper le sol avec ses baskets et frotter. D'une part, c'est certainement mauvais pour les articulations, mais c'est aussi une perte d'énergie énorme. Et donc, courir, avoir une bonne technique de course à pied, d'une part, c'est arrêter de se faire mal au corps, mais c'est en plus. Gagner en efficacité ou en efficience, c'est apprendre à gaspiller beaucoup moins d'énergie, ce qui veut aussi dire sur un semi-marathon à faire des chronos bien meilleurs juste parce qu'on a arrêté de gaspiller de l'énergie pour rien, et ça c'est passionnant. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi je faisais 1h42 sur semi-marathon avec une mauvaise technique, en 6 mois ou en un an, juste à travailler ma technique, bah, je suis passé à 1h26 sur semi-marathon. parce que je gaspillais de l'énergie pour rien, et au lieu de gaspiller de l'énergie pour rien, bah, j'ai appris à économiser mon énergie, ce qui fait que sur la deuxième moitié de la compétition, bah, au lieu d'être crevé, je suis en pleine forme et je vais plus vite. Donc ouais, c'est intéressant, c'est apprendre, c'est explorer la sensibilité sous le pied, c'est explorer aussi effectivement la sensibilité partout, et donc avec ses oreilles, c'est être présent à soi-même, présent à son environnement. Et ça nous permet vraiment de gagner en précision, ça nous permet vraiment de gagner en efficacité. Et tout ça, bah, ça se paye aussi en termes de plaisir. Hein. Quand on est rapide, quand on est léger, quand on est fin, subtil, délicat, le plaisir, il est multiplié par 1000. Quand on sent que ça y est, on est en train de faire les choses comme il faut, waouh, moi, je suis passé par des... On parle du fameux runner's high. Il avait toujours été limité, je pense, à l'époque où j'avais une mauvaise technique, où j'étais moins conscient de ce que je faisais. Une fois quand on est dans la zone, quand on sent que le corps il avance sans se plaindre et que c'est léger, c'est facile. Là, tu passes par des trucs. Je souhaite ça à tout le monde. C'est fantastique comme moment. Ouais, vraiment.
Ouais, en tout cas, ça donne envie. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui dit dans le bouquin qui est intéressant. Et pour revenir sur l'histoire des photos moi, je suis un peu en guerre contre les photos Instagram des runners, fameuses jambes tendues. Moi, j'appelle ça les gazelles, en fait. Qui sont très hautes, jambes tendues, ça fait des belles photos. Et sauf que ce qu'il dit bien, c'est qu'il y a deux problèmes. D'une part, c'est que ça donne une image pour moi d'une mauvaise image de ce que devrait être la position de course du coureur, et qui est une image finalement où on part vers le haut. Déjà, donc, au lieu d'aller vers l'avant, on met beaucoup d'énergie à partir vers le haut, et donc on lutte même contre la gravité quelque part. Et en plus, quand on en arrive avec le pied et la jambe tendue, on freine parce qu'il y a le choc à amortir, il y a tout le coup de frein que ça donne, etc. Et donc rien que ça fait déjà deux arguments de dire bon bah, en courant avec une meilleure technique, déjà au niveau énergétique, on est déjà largement mieux. Et ce qui est marrant, c'est que plusieurs fois, alors je sais pas combien de fois il le dit dans le livre, peut-être que toi tu le sais, c'est qu'il dit qu'il est feignant. Et ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui court des marathons, qui a fait des centaines de courses.
Ouais, mais c'est voilà, affirmer sa fainéantise, c'est un excellent point de départ. C'est vraiment dire à quoi bon gaspiller de l'énergie pour rien. Et à partir de là, il déroule toute une réflexion, en fait. Donc, il y a toute une partie technique dans le livre, comment construire la foulée la plus optimale. Et à chaque fois, c'est vraiment son point de départ, c'est comment gaspiller le moins d'énergie possible. Donc, tu viens de le dire, il y a des éléments de réponse. Le premier, c'est ne pas se projeter vers le haut. Se projeter vers le haut, aller décrocher la lune, c'est pas ça qui nous permet d'avancer plus vite. Et donc, y a cette phrase-là que j'aime beaucoup de Ken Bob, c'est il dit, en fait, quel est l'objectif? Le seul objectif de la course à pied, c'est de progresser vers l'avant. Et tout ce qui ne nous sert pas à progresser vers l'avant, en fait, il faut s'en débarrasser parce que c'est de la perte d'énergie. Donc, sauter vers le haut, c'est gaspiller de l'énergie. Atterrir de toutes ses forces avec une jambe tendue et un pied loin devant nous, effectivement, ça, c'est presque se repousser vers l'arrière. Donc, c'est un non-sens complet. Et en plus de ça, c'est extrêmement traumatisant puisque, donc, ce ressort naturel qui est la jambe avec ses trois articulations n'est plus utilisé. On a un manche à balai tout droit au lieu d'avoir un joli ressort. Et c'est là où les articulations pètent. Et après, il va appliquer cette réflexion à plein d'autres éléments techniques qui sont inutiles et qui nous font perdre beaucoup d'énergie et qui parfois nous font très mal au corps. Je ne vais pas les détailler ici, mais tu viens de citer les deux éléments les plus importants. Ouais. Ne pas se projeter vers le haut, ne pas atterrir avec une jambe toute droite et avec un pied loin devant nous. Le pied, ça c'est un élément technique qui peut intéresser tous les auditeurs. Le pied, quand on pose le pied au sol, il faut qu'il soit pile poil, en fait, sous notre bassin. S'il est devant nous, en fait, on est vraiment, c'est physique, on est en train de gaspiller de l'énergie et on est en train de se faire mal. Le pied doit accompagner la progression du buste. Et pour accompagner au mieux, le point de pose du pied, c'est juste en dessous de nous et rien d'autre. Et pour revenir au genou, on a déjà parlé du genou, qu'est-ce qui permet de poser le pied sous le bassin? C'est un fléchissement du genou et rien d'autre. Voilà, donc ça, voilà. J'invite tous les auditeurs à considérer cet élément technique parce qu'il est, très simple et il donne des résultats incroyables.
Ouais, et puis alors ce matin, je lisais une partie, parce que j'ai pas fini le livre, mais je lisais une partie sur. Il parlait, tu sais, de. Parce qu'il se met un peu en opposition aussi avec d'autres techniques de course, notamment la technique pause qu'on peut voir, qui est très ancienne aussi hein, sur les techniques de course, sur l'histoire du basculement vers l'avant, qui est un truc intéressant parce que là aussi il n'est pas tout à fait pareil que les autres, où des fois on voit des coureurs qui sont très penchés, on se dit il faudrait que je me penche pour avoir de la vitesse, etc. Et lui en fait, il dit oui, on penche les jambes mais pas le haut du corps. Et c'est là où il a une démarche qui n'est pas que sur les jambes, qui est sur le corps globalement, quoi.
Ouais. Il prend le temps de. Il a passé presque 30 ans à construire sa pédagogie, donc il va vraiment dans les moindres détails. Donc sur le buste, lui, sa position, c'est effectivement de maintenir un buste vertical, parce que maintenir un buste vertical, ça demande beaucoup moins d'énergie que de maintenir un buste penché vers l'avant. Un buste penché vers l'avant, c'est des résistances musculaires dans le dos, par exemple, entre autres. Après, il n'est pas le seul à dire ça. Il y a un livre qui est exceptionnel, qui n'existe pas en français malheureusement et qui n'a jamais été publié officiellement. C'est un livre de Gordon Pyrie, qui s'appelle Running Fast and Injury Free, donc courir vite et sans blessure. C'est un champion anglais des années 70 ou 80. Et tout au long du livre, le mec, à chaque chapitre, il va commencer son chapitre en disant « il faut maintenir le buste vertical et il ne faut pas se pencher vers l'avant ». Le buste penché vers l'avant, Ken Baum Saxton, lui, il considère que ça peut être utile dans les moments d'accélération et peut-être face à un vent très fort. Mais après, il rappelle bien que sur un semi-marathon, sur un marathon, sur une longue distance, en fait, les moments d'accélération, ça n'arrive pas très souvent. On essaye plutôt de maintenir une vitesse stable. Voilà. Après, il y a aussi toute une réflexion sur les épaules. Et pour lui, ça c'est intéressant aussi. Ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a un pivotement des hanches qui doit se faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de laisser les épaules contrebalancer le mouvement des hanches, pour maintenir une progression neutre du nombril, en fait. Donc voilà, c'est très très riche en détails. C'est pas les éléments les plus nécessaires aux mauvais coureurs, enfin aux coureurs blessés. Le mauvais, il y a personne n'est mauvais. Mais il y a des éléments vraiment essentiels. C'est le genou, c'est la sensibilité du pied. Ça, c'est vraiment des choses à mettre en place tout de suite par tout le monde. Tous ceux qui ont mal quelque part, il faut vraiment qu'ils considèrent ça. Et puis après, effectivement, c'est un livre qui peut se lire une fois, deux fois, trois fois, l'année prochaine, dans 5 ans. Il y a tellement de détails qu'on peut aller très, très loin dans la subtilité de la technique de course à pied. Donc c'est un livre, c'est un investissement sur le long terme. Voilà, ça coûte 25 €, mais c'est 25 € que dans 10 ans, il y aura encore plein de choses à tirer de la lecture de cet ouvrage, tellement il est complet, tellement il est précis. Et même pour ceux qui n'ont pas envie de courir pieds nus, parce qu'il y a des gens, je sais que ça leur fait vraiment très peur, et c'est dommage. Même si on va pas explorer cette dimension sensorielle du pied nu, tous les éléments théoriques de la bonne technique sont extrêmement bien détaillés, extrêmement précis, ils sont tellement bien expliqués qu'en fait on comprend que c'est évident. Il nous donne les éléments d'une bonne technique naturelle, que la nature avait construit une bonne technique, et il nous explique comment la retrouver. C'est passionnant.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant, parce que il explique d'ailleurs aussi comment le vélo peut aider à mieux courir, notamment parce que tu parlais de la cadence. Alors c'est vrai que l'histoire de la cadence de 180 pas par minute, c'est quelque chose qui est compliqué. Et puis en plus, il dit d'ailleurs qu'on peut se faire piéger par cette histoire-là, parce que si on essaie de nous taper le pied à chaque fois que notre métronome il fait bip bip bip, on est justement dans l'attaque, au lieu d'être dans ce que lui, il nous fait rechercher, c'est-à-dire la douceur. Et c'est là où aussi il montre que finalement, il y a plein de techniques qui nous environnent, et que c'est vraiment un ensemble et une philosophie d'économie, moi j'ai envie de dire, parce que finalement c'est une course très économique hein, qui propose, dans laquelle il va vraiment très loin dans l'analyse de tout ça, quoi.
Ouais, effectivement, après ça devient vraiment une manière de penser. C'est vraiment l'exemple du métronome. Encore une fois, c'est comme on parlait tout à l'heure du Walkman et de la musique dans les oreilles. Donc là, il dit effectivement courir avec 180 pas par minute, c'est l'idéal, ou même il invite à courir avec des fréquences encore plus hautes, 200, 210. Il considère que plus la fréquence sera haute, plus les risques de blessures seront moindres. Mais utiliser une machine telle que le métronome, c'est inviter, encore une fois, à taper du pied comme un militaire. Et taper du pied, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est tout de suite être dans une attitude déjà guerrière et peut-être traumatisante pour le corps. Donc à chaque fois, ouais, c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est quelqu'un d'assez obsédé, je pense, alors par tout ça, mais il a passé sa vie à scruter les moindres détails de qu'est-ce qui peut faire du mal à notre technique et qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller dans la technique la plus fine, la plus absolue, la plus légère, la plus précise. Et donc oui, le métronome va nous donner une indication, mais va peut-être nous pousser à taper du pied. C'est vraiment une philosophie de vie. C'est quelqu'un qui a construit une compréhension du corps humain, voilà, qui va très très loin dans les détails. Et ouais.
Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, après, il dit aussi qu'il faut accepter sa fatigue, faut accepter que faut se reposer, hein. Il n'est pas sur l'histoire de dire faut en faire beaucoup tout le temps, etc. Hein. Il y a aussi toutes les histoires de repos qui gèrent autour de ça. Ce qui est drôle, mais ce qui va déconcerter certains, c'est qu'il dit qu'au début, le mieux, c'est quand même d'aller marcher sur des graviers ou de pas commencer par des surfaces trop... Trop douce sous les pieds. Là, on se dit ouais, bon, on va aller petit à petit sur des difficultés plus importantes. Je lui dis non, il faut aller ressentir directement en fait là où ça fait le plus mal parce que c'est finalement là que le pied va nous amener à la meilleure position le plus vite.
Ouais, alors c'est peut-être le point. Donc, quand il nous invite à courir sur des graviers, il pousse sa réflexion jusqu'au bout. Il est radical dans son approche et il joue la carte de la radicalité jusqu'au bout. Aller courir sur des cailloux quand on n'a jamais couru pieds nus, je pense que c'est une invitation peut-être un peu trop forte et ça va en décourager trop. Par contre, là où il a entièrement raison, c'est de dire que aller courir sur des sols trop faciles, donc par exemple la plage ou par exemple une pelouse après la pluie, donc des sols trop meubles, en fait, c'est des sols qui vont nous donner que très peu d'informations sur la bonne manière de courir parce que ce sont des sols trop permissifs. Courir avec une mauvaise technique sur du sable ne va pas nous faire mal aux pieds. Courir avec une mauvaise technique sur un gazon trempé ne va pas nous faire mal aux pieds. Et du coup, cette absence de douleur, donc cette absence d'information, ne va pas nous pousser à une remise en question de notre technique. Alors que choisir un goudron, le goudron derrière chez nous, qui a deux qualités vraiment intéressantes. D'une part, le goudron, c'est dur, et en plus, bien souvent, le goudron, c'est rugueux. Et ça, ce sont deux qualités passionnantes parce que la dureté du goudron va tout de suite nous dire, bah, il faut arrêter de taper parce que taper, ça fait vraiment trop mal aux pieds. Donc, la dureté du goudron va rapidement nous dire, ah, peut-être qu'en fléchissant plus le genou, en posant le pied par donc on appelle ça le bol du pied dans les arts martiaux, certains pensent que c'est la même chose que l'avant-pied ou le médio-pied. Moi, je pense que utiliser le terme bol du pied, c'est plus précis. C'est cette grosse boule de gras juste avant les orteils. Poser le bol du pied avant le talon, c'est vraiment apprendre à ne pas attaquer le goudron. Et c'est vraiment la dureté du goudron qui va nous apprendre à faire ça. Et la deuxième qualité du goudron, c'est quoi? C'est le fait qu'il est rugueux. La rugosité du goudron va nous faire comprendre que frotter le sol, bah, ça crée des ampoules, ça brûle. Et en moins de 5 minutes, on va arrêter de frotter le sol parce que c'est plus que désagréable. Voilà, donc lui, il pousse sa logique jusqu'au bout. Il dit, voilà, c'est bien de commencer par des cailloux. C'est peut-être le seul point du bouquin où je trouve qu'il va un peu trop loin dans son truc. Mais remplacer les cailloux par un goudron pas trop facile, c'est vraiment une surface d'apprentissage passionnante. 5 minutes de goudron, 3 fois par semaine, c'est un apprentissage de la précision qui est gigantesque. J'invite vraiment tout le monde à explorer ça. Ou il y a des stades aussi qui ont des surfaces pas trop faciles. Et faire 3 tours de stade sur un sol assez dur et assez rugueux, c'est vraiment un moment d'exploration, de recherche et donc à terme de découverte, d'apprentissage gigantesque.
Ah mais
Voilà.
je te confirme parce que la semaine dernière j'étais au club avec un entraînement sur piste et
Ouais.
à la fin déjà je supportais plus mes chaussures ça c'est à force de courir on s'en a les pieds nus et pourtant et je dois le dire je cours en Altra depuis 3 ans maintenant. Et donc les Altras, elles ont un pied large hein, devant, donc normalement je suis quand même. Et au bout de 10 km, je supportais plus la chaussure, je trouvais trop serrée. Et donc je me suis dit bon, je vais finir. Les autres étaient partis faire le décrassage, tu sais, tranquillement autour du stade. Moi, je me suis dit que je vais le faire pieds nus. Et donc j'ai commencé par faire par le terrain de foot. Et à la fin, j'ai dit tiens, je vais essayer la piste, courir sur la piste pour voir ce qui donne. Et ben la piste, j'ai découvert à quel point elle était inconfortable en courant pieds nus. Hein, c'est le côté rugueux, le côté. Alors que quand on y est avec des chaussures, on a l'impression qu'elle a une certaine souplesse. Et puis une fois qu'on est pieds nus dessus, se rend compte qu'en fait, elle est pas franchement agréable. Et je me suis rendu compte que je courais encore différemment sur la piste que ce que je venais de faire sur mes terrains sur le terrain de foot à côté avec une herbe un peu grasse, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est ça qui est passionnant. J'ai encadré beaucoup de débutants à la course pieds nus. Et il y a des mecs donc qui courent en sandales depuis 10 ans, chaussures minimalistes, qui sont persuadés d'avoir une foulée précise, etc. Puis je leur dis, faire 1 km sur du goudron. Voilà, je propose ça. Et il y en a qui jouent le jeu et qui reviennent en disant, au bout d'1 km, j'ai développé des ampoules sous le pied. Et en fait, l'ampoule, elle est passionnante parce que quoi, elle nous dit qu'en fait, c'est la preuve qu'il y a vraiment dans leur manière de courir des frottements. Et donc, il y a vraiment une perte d'énergie inutile. Et donc, c'est la preuve qu'il y a encore moyen d'améliorer sa foulée et effectivement d'entretenir une pratique pieds nus sur un sol rugueux comme la piste dont tu parles. Vraiment, à terme, ça va nous apprendre à développer une pose du pied sans le moindre frottement. Et du coup, ça, en termes de précision et du coup, en termes d'efficience et de résultats, ça va vraiment payer. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. On n'est pas tous intuitifs, on n'est pas tous égaux devant l'intuitivité, devant le développement de nouvelles compétences. Donc, il y a des gens qui ont. J'ai vu des gens à 3 minutes de goudron et j'ai vu la posture se corriger, la foulée devenir belle, précise. Il y a des gens pour qui ça va prendre. Moi, je suis pas très rapide. Hein. Il m'a fallu 6 mois, je pense, d'apprentissage pour défaire les mauvaises habitudes et pour en construire des nouvelles. Mais en tout cas, ça paye. Ça paye intégré. Chacun ses limites, mais plusieurs fois par semaine, aller se frotter à un sol un peu rugueux, c'est à chaque fois aller explorer et aller construire des compétences beaucoup plus fines, beaucoup plus précises.
Et en fait, la lecture du livre m'a appris un truc qui était marrant, c'est que les autres années, quand j'allais courir sur la plage, je revenais toujours avec des grosses ampoules. Et je disais qu'en général, je faisais 5 km de course sur la plage, j'allumais tout ce qui se passait autour avec des grosses ampoules. Et en fait, alors cette année, j'en ai moins eu. Pourtant, j'ai fait autant de séances sur la plage. Mais par contre, j'ai découvert pourquoi. J'avais des ampoules sous le pied, hein, tu parlais des frottements. Et lui, ce qui est drôle, c'est l'histoire de l'image. Alors, ceux qui liront le livre verront l'histoire du pied qui atterrit façon un avion, comment il se pose, etc. Et l'histoire des orteils relevés. En plus, il développe vraiment, parce qu'il y a un vrai développement sur la position des orteils, etc. Et tout d'un coup, ça m'a semblé tellement logique, l'histoire.
Voilà, encore une fois, il va dans les moindres détails, donc il explique aussi comment poser son pied pour la plus grande précision, et ça va jusque dans la position des orteils. Une pose naturelle du pied quand on court, c'est avec des orteils légèrement relevés, et qui vont les orteils vont se poser au sol, mais après le bol du pied. Et ça va vraiment permettre d'éviter les ampoules, et ça va vraiment permettre une pose optimale du pied, et donc de tout le corps. Il y a aussi beaucoup de coureurs qui, quand ils passent au Vibram Five Fingers ou à d'autres chaussures minimalistes, pensent que il faut courir avec l'avant-pied. Ils ont une vision un peu simpliste de la bonne technique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a certains qui oublient de poser le talon. Alors, puisqu'ils pensent avant-pied, du coup, pas poser le talon, en fait, non, non. Ça, c'est pareil, c'est très bien expliqué dans le livre. Voilà. Tant qu'on pose pas le talon, on est en train d'exercer un stress énorme sur toute la zone des mollets et des tendons d'Achille. Et très rapidement, on peut se flinguer tout ça. Et donc, il s'agit bel et bien de poser avant tout le bol du pied, mais ensuite, on pose le pied tout entier au sol et on se repose sur ce pied, on se détend. Voilà, il y a un grand mantra dans le livre aussi, c'est la détente. Hein. Il
Ah
dit,
oui.
s'il y a une seule règle à retenir, c'est détendez-vous, 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 voilà. Et pliez le genou.
Ouais.
Donc, ouais, on apprend, et avec beaucoup de photos, hein, on apprend vraiment, dans les moindres détails, à poser son pied, de la manière la plus précise possible. Vraiment, dans les moindres détails. C'est passionnant. Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment passionnant parce que en plus, ce qu'il explique, hein, c'est pour reprendre l'histoire de relever les orteils, c'est que dans des chaussures classiques, on le fait pas. Mais même si on le faisait, en plus, c'est ce qui pourrait amener à une mauvaise position, à des blessures, etc., pour amener des tensions. C'est là où il montre en fait l'ensemble de la mécanique sur le fonctionnement du corps, hein, qu'il y a vraiment tout un ensemble. Hein, on le dit, hein, quand il explique la méthode, il part de la tête, hein, il descend vraiment partie par partie pour expliquer chaque élément, comment les positionner, etc. Avec, moi quand même, tu vois, il y a un truc, je me disais, il y a l'histoire de l'atterrissage du pied, tu sais. Ouais. Parce que quelqu'un qui prend le truc comme ça, quand il va lire, il faut... comment il explique ça ? Il faut soulever le pied, en fait. Hein, ouais. Avant de le poser, il faut le soulever.
Exactement.
Et mécaniquement, c'est pas simple de comprendre, d'avoir l'image des choses, de voir exactement ce qu'il veut dire.
Ouais, voilà, c'est son truc. Il aime prendre les gens un peu par surprise et les pousser, les obliger à ce changement de perspective, vraiment. Et donc, pour lui, quelle est la meilleure manière de ne pas frapper le sol ? C'est de soulever le pied avant même qu'il ait touché le sol. Alors ça surprend, mais du coup il sait que ça va surprendre quand il le dit, et donc il aime beaucoup les analogies. Il donne une analogie qui est absolument pertinente. Il nous propose de visualiser le petit vaisseau de la NASA qui va se poser sur la Lune. Donc le truc est en train de s'approcher de la Lune, et ben pour être certain de pas se fracasser contre le sol de la Lune avant même le contact entre le vaisseau et la Lune, le petit robot va allumer ses rétroprojecteurs. Et ces rétroprojecteurs, ils lui servent à quoi ? En fait, ils lui servent à décélérer, à ralentir avant le contact. Et donc, c'est ça, en fait, qui veut dire quand il propose de soulever le pied avant même qu'il ait touché le sol, c'est une manière de ralentir la chute du pied au maximum avant le contact entre le pied et le sol. Et comme on parlait déjà du genou tout à l'heure, il explique en fait ce retrait du pied, se soulever le pied avant d'avoir posé le pied. C'est quelque chose qui se fait très naturellement, tout simplement en fléchissant le genou. À partir du moment où je suis en train de fléchir mon genou, le pied de lui-même, au moment de sa chute, il est en train de ralentir sa chute. Donc il ramène tout, l'essence même de la bonne technique pour lui, elle est au niveau d'un fléchissement du genou très prononcé. Et ce fléchissement du genou, il permet plein de choses, et il permet notamment de ralentir la chute du pied pour minimiser l'impact et donc minimiser toutes les blessures. C'est vraiment la recherche centrale de l'auteur, c'est comment ne pas se faire mal en course à pied. Par chance, une bonne technique, c'est aussi une technique qui permet d'être plus rapide. Mais lui, sa recherche première, c'est vraiment explorer les moindres détails d'une technique. Je crois qu'un terme qui revient très souvent dans le livre, c'est la délicatesse.
Ouais.
Et ça, il y a combien de coachs qui parlent de délicatesse en course à pied ? Il n'y en a pas beaucoup, et je pense qu'il a raison d'insister là-dessus. Ouais.
Non, mais puis ce qui est drôle, moi je trouve vraiment, c'est dans les exercices, dans la manière de voir les choses, etc. Mais c'est vrai, l'image là de, parce que là tous ceux qui sont en train de courir là tout de suite en écoutant le podcast, ils sont en train de regarder leurs pieds, voir comment ça court, etc. Et l'histoire de je ralentis le pied pour qu'il atterrisse en délicatesse, et même après il le dit par rapport à la vitesse du sol. Enfin, il y a plein de trucs, hein, de détails, et le livre est vraiment bien fait là-dessus. Quand ils vont regarder un petit peu comment ils courent, ils vont se dire, mais de quoi, qu'est-ce qu'ils me racontent, quoi? Mon pied, il tombe, je dois pousser sur le pied pour avancer, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il déconstruit tout ça, il explique vraiment des logiques, et puis après, il faut le dire, hein, c'est qu'il y a une dizaine d'exercices pour mieux comprendre comment justement on fait tout ça, quoi.
Ouais, alors par exemple, sur la poussée du pied, lui considère qu'il faut jamais pousser dans le sol. Pousser dans le sol, c'est se projeter vers le haut. Pousser dans le sol, c'est user des muscles, solliciter des muscles complètement inutilement. Et donc, un exercice, voilà, il dit ne pas pousser dans le sol. Comment prendre conscience qu'on pousse ou pas dans le sol ? Pour une fois, il nous invite à courir sur la plage, sur un sol mouillé. Et le sable, en fait, va réagir plus ou moins à une éventuelle poussée dans le sol. Et donc, courir sur la plage, laisser des empreintes, on va pouvoir observer l'empreinte, on va pouvoir observer si les orteils sont venus pénétrer dans le sable ou pas, et il nous invite à ne pas solliciter les orteils pour aller gratter dans le sable. Et donc à chaque fois, ouais, il y a des éléments théoriques, et ensuite il y a des exercices qui permettent de mesurer, ou en tout cas de comprendre les éléments théoriques qui sont avancés, parce que c'est vraiment... C'est sa propre pédagogie à lui. Quand on connaît pas Ken Bob Saxton, on est vraiment surpris par tout ce que le bonhomme va nous raconter. Ça n'a rien à voir avec un entraîneur qui a été formé par le système classique. ses propres idées, ça sort de. On n'est pas habitué à ça, mais c'est là toute la richesse du livre. Et c'est toujours. C'est jamais gratuit. Je crois que c'est ça qui est bien dans ce livre aussi, c'est que tous les ajustements qu'il propose, parfois sont surprenants, mais en tout cas, ils sont toujours très très intelligents, c'est toujours justifié. Et donc c'est très très c'est un livre très très sérieux. C'est sous couvert de voilà le mec qui il met des vêtements rigolos, il fait beaucoup de blagues mais en fait ça reste toujours extrêmement solide et extrêmement fondé. J'ai pas tu vois moi ça fait 10 ans que je pratique ce livre et que je suis allé un peu tester tout ce qui est proposé. Peut-être qu'au début j'étais dérouté. Après 10 ans, je suis un peu obligé de dire qu'en fait il avait raison sur tous les points. Je trouve pas une ligne avec laquelle je sois en désaccord. Bon, on a parlé tout à l'heure. Il invite les gens à aller courir sur des cailloux. Ça, c'est peut-être trop. Il exagère. Il pousse sa logique un peu trop loin peut-être. Mais pour le reste, tous les éléments techniques. Après 10 ans de pratique, je me dis que j'adhère à 100% à ce qui est proposé et je me fais un grand plaisir de partager cette pédagogie. Je pense, je voudrais que cette pédagogie soit plus connue, que cette compréhension du corps humain soit plus, je sais pas, plus mieux comprise en France, qu'on arrête cette de proposer cette vision brutale et traumatisante de la course à pied et qu'à la manière de Kemb Bob Saxton, on s'intéresse à ces détails-là parce que ce serait bon pour tous. Voilà, pour les genoux de tous les coureurs, on a tous intérêt à construire cette vision plus fine et du corps humain. Ouais, vraiment.
Mais alors, ce qui est vrai en plus, c'est que il a l'air drôle. Enfin, tu l'as rencontré?
Non, j'ai échangé sur Internet par mail. Voilà, j'ai lu son bouquin en 2013, après un an de pratique, c'était un moment tellement exaltant de ma vie, je me débarrassais de mes blessures, je faisais des chronos vraiment inimaginables sur semi-marathon, jamais de ma vie j'avais pensé faire 1h26 sur semi-marathon, ça me correspondait pas, tu vois, ça faisait pas partie de mon imaginaire. Donc au bout d'un an, il y a tout ça qui se met en place, c'est tellement exaltant, je lui renvoie un petit mail, je lui dis voilà, jamais j'avais lu un livre comme ça qui permettent autant de miracles en si peu de temps. Et voilà, on est devenus des bons copains. Et là, c'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit, j'aimerais beaucoup que le livre existe en France. Et aujourd'hui, il est très content.
Oui, c'est ce
Ouais.
que j'allais te dire. Comment ça se fait? Parce que le livre, il a 10 ans, à peu près, hein, je
Ouais,
crois.
tout à fait.
Parce que j'ai eu un commentaire l'autre jour quand j'ai publié sur Instagram. On dit oui, mais il est un peu vieux. Il y a eu des trucs qui ont été faits, des études qui ont été faites depuis,
Ouais,
etc.
ouais.
Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la philosophie. C'est son approche globale, hein, qui est dedans.
Ouais.
Même si on pourra retrouver des études qui peuvent dire des choses peut-être différentes, je sais pas. Comment tu as l'idée de dire, tiens, ce livre, je vais le traduire. Et comment ça se passe d'ailleurs après? Tu es allé voir un
Ouais.
éditeur? Comment ça se passe?
Exactement. Alors, voilà, moi, ce livre, je l'ai. C'est un livre qu'on m'offre en 2013. Je le trouve génial. J'ai des super. Voilà, je transforme ma pratique de la course à pied. Et du coup, j'en parle beaucoup autour de moi. À chaque fois que quelqu'un passe à la maison, bah, je dis tiens, regarde, ça c'est vraiment un bouquin génial. Et je vois que tout le monde est d'accord avec moi, que tous ceux qui jettent un coup d'œil au bouquin le trouvent génial également. Et puis voilà, je me dis quand même, c'est vraiment génial et quand même personne ne le connaît. Et donc avec le premier puis le deuxième confinement, moi je me retrouve avec plus de temps libre que d'habitude. Et je me dis, allez, voilà, je me lance dans une traduction. C'est vraiment de ma propre initiative. Ça me prend 3 mois, 3, 4 mois, je crois, pour traduire ce truc. Et je contacte les éditions Thierry Soukar. Donc Thierry Soukar, ils sont spécialisés de beaucoup dans le modèle paléo. Donc une alimentation un peu comme les hommes préhistoriques et puis un usage du corps aussi un peu comme les hommes préhistoriques. Ils sont aussi spécialisés dans les ouvrages de techniques de course. Hein, et c'est eux qui éditent Light Fit Running de Solar Bergsiel. Donc il y a un très bon ouvrage sur la technique de course. C'est quelqu'un qui est pro-minimaliste et qui a des très bons éléments de technique de course, les mêmes que Ken Bob Saxton en fait. Et je dis à Thierry Soukar, voilà en fait, Ken Bob Saxton, en plus de ça, lui, il nous propose l'approche sensorielle du pied. Il est le seul à le faire et c'est absolument génial. Et ça correspond très bien au modèle paléo. Il s'agit encore une fois de revenir à nos origines. Et chez les éditions Soukar, ils me disent, ah bah oui, effectivement, c'est un bouquin qui nous plaît énormément. On aurait dû peut-être le publier plus tôt. On est passé à côté. Et donc voilà. Et ensuite, les éditions Soukar contactent l'éditeur américain et il faut 6 mois, je crois, pour que le livre arrive dans les librairies. Et c'est une expérience passionnante. Je suis très très content de cette expérience professionnelle. Je découvre des gens passionnés. Et moi, je suis sur un sujet, tu l'as compris, qui me passionne. Et voilà, c'est. Et j'ai l'impression, ouais, je suis content. Je suis fier de participer à voilà à J'amène sur le marché français la pédagogie de Ken Bob Saxton et c'est une pédagogie qui on peut tous en bénéficier, voilà. Je connais trop de coureurs qui galèrent et je sais que c'est un ouvrage qui peut en aider beaucoup et je suis fier de pouvoir participer à ça, vraiment.
Mais c'est vrai et bon, il a un côté gourou en plus avec sa barbe et tout. Le personnage, en fait, moi, tu sais, il me faisait penser à un truc. Quand j'ai vu sa photo la première fois, j'ai pensé à l'informatique, à Richard Stallman que j'avais vu un jour pieds nus comme ça déambuler dans les salons informatiques. Et Richard Stallman, c'est un des grands gourous du logiciel libre. Et quand j'ouvre le livre et que je regarde Ken Bob Saxton, je me dis attends, bon, il est informaticien en plus, c'est leur point commun. Ouais. Je me dis mais attends, c'est lui qui court, c'est qui ce gars-là et tout. Et puis il faut le dire, hein, tu dis, c'est pas un athlète qui a fait des temps exceptionnels. Enfin, je crois avoir vu un 3h25 en marathon, quelque chose dans ces zones-là. Hein, je sais pas après quel est son meilleur temps. Mais il a des temps qui plairaient à beaucoup de gens quand même.
Quand même, ouais, ouais. À 1h22 sur semi-marathon. Puis il était très bon sur, je me souviens pas de ses chronos, mais sur 5 km et 10 km, il est très bon. Donc, c'est un amateur qui peut en faire rêver plus d'un. Après, ce qui est drôle, et c'est vraiment très drôle, c'est un livre qu'il écrit, je crois qu'il a 55 ans quand il écrit le livre. Donc, à un moment de sa carrière sportive où il a un peu de ventre, tout ça, et il en joue beaucoup. C'est un livre qui est plein d'ironie. Il met des shorts violet fluo. C'est toujours une invitation, d'une part, à considérer la course avec beaucoup de précision et beaucoup de passion, mais c'est toujours aussi une invitation à ne pas trop se prendre au sérieux. Et je pense que c'est un pied de nez au vrai gourou de la course à pied, à tous ces coachs qui parfois sont un peu trop obtus dans leur compréhension des choses, mais qui jouissent un peu trop d'un vrai statut de gourou. Lui, c'est un personnage très très drôle, en plus d'être très fin, qui joue beaucoup avec effectivement, qui sait jouer avec la communication. Il sait pas du tout le top modèle de la publicité de Decathlon. Non. Ouais. Mais puis, c'est quelqu'un qui a... Ouais.
Et puis c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont le livre, c'est pas le seul qui a un petit ventre et tout. Je veux dire, il y a pas de Monsieur Muscle ou Madame Muscle dans le livre. Hein. Il y a des photos où, bon, lui, tu parlais, hein, c'est vrai qu'il a du ventre, etc. Mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres aussi. Bon, il y a des photos, il y a une casquette avec un espèce de truc qui tourne sur la tête, là, une espèce de truc. Ouais. Il a des le premier exercice pour donner le pour ceux qui veulent acheter le livre, c'est l'ivrogne titubant. Premier exercice.
Voilà. Exactement.
Donc ça donne tout de suite le truc. Et c'est vrai que enfin, quand on voit la photo, rien qu'en regardant la photo de l'exercice qu'il donne, déjà on comprend la logique.
Ouais, c'est un livre avec beaucoup, beaucoup de photos. Et c'est bien pour un livre de course à pied parce que c'est difficile avec des mots d'expliquer une bonne technique de course à pied, je pense. Il faut trouver le vocabulaire, il faut expliquer des concepts, il faut expliquer des mouvements. Expliquer des mouvements dans un livre, c'est toujours délicat. Et là, c'est un livre voilà, avec de très très nombreuses photos et des photos qui parlent d'elles-mêmes, c'est génial. Et encore une fois, pour revenir sur le côté rigolo du personnage, je pense que c'est très pertinent de sa part. Il sait très bien ce qu'il fait parce que, en fait, quand il arrive, il déboule en disant « Voilà, moi j'ai couru 80 marathons sans chaussures », c'est un côté effrayant pour certains. On pense tout de suite, voilà, c'est un mec, un aventurier de l'extrême. Et lui, lui, je pense que son objectif, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre parce qu'il est persuadé que le plus grand nombre va bénéficier de son enseignement, enfin de la sensibilité de ses pieds. Il sait vraiment que la plupart des coureurs ont les genoux détruits et qu'ils sont tous en train de galérer. Et avec un sujet, avec une pratique radicale et souvent effrayante, je pense que le côté rigolo vient nous rassurer, vient nous décomplexer. Et comme ça, on part pas en fuyant, en se disant, oulala, ça c'est pas pour moi. Il veut nous rassurer et c'est très pertinent, voilà, d'avoir un gros ventre, d'avoir des shorts un peu moches. Et ça se veut, c'est un livre qui se veut, je pense, très. C'est la bande de copains, quoi. Et c'est bien, c'est très bien comme ça, parce que il faut pas que le pied nu soit réservé à des aventuriers de l'extrême, il faut pas que le pied nu soit réservé à une élite ou quoi. Moi, mon rêve, c'est que demain, le prof de PS en classe de 5e, il dise à ses gamins, bah voilà, 3 tours de stade pied nu, parce que c'est nécessaire à une bonne perception, à une bonne conscience corporelle, personnelle. Et si Ken Bob Saxton pouvait aider à faciliter ce sujet avec des blagues et avec des shorts moches, et ben, je trouve ça super. Voilà.
Et puis, ce qui est marrant, c'est que en fait, il y a quelques citations d'auteurs, d'auteurs ou coureurs. Et en fait, les citations, c'est systématiquement des citations autour du plaisir et du jeu. J'en donne deux parce que dans la, alors déjà, lui, il signe la préface en disant "Prenez du plaisir, amusez-vous." Mais il dit en fait, il prend une citation de Tom Osler, qui est un coureur, qui dit "J'aime courir, c'est la chose la plus plaisante à laquelle je puisse penser. Je ferai tout ce qui est mon possible pour continuer à courir." Et ça, cette phrase, elle m'a rappelé un épisode que j'ai fait avec Phil Ufo, Phil Billard, qui m'a dit que lui voulait devenir un coureur, un vieillard courant, tu vois. Et
Ouais, j'ai écouté celle-là.
voilà. Et en fait, c'est là où je retrouve un peu l'esprit aussi, tu vois, dans le même genre. C'est, je me dis, mais je trouve qu'il a ce même esprit de dire comment on peut courir, bien vieillir, comment c'est possible en fait.
Exactement, ouais, il fait vraiment l'affirmation que la course à pied, c'est un mouvement naturel, un mouvement qui nous est offert à la naissance. Ça fait partie des mouvements possibles pour l'homme. Et lui considère que courir avec une bonne foulée, c'est vraiment construire un corps dans le temps. Peut-être à l'inverse de l'athlète, du champion qui, à force de décrocher des médailles, va peut-être s'égratigner, plus ou moins. Certains plus que d'autres. Et lui, il est vraiment aujourd'hui, il doit avoir 65 ans, je crois, et il continue à courir. Et avec cette affirmation que la bonne foulée, la précision de la technique va vraiment permettre l'épanouissement. Aussi bien du corps que du bonhomme en tout entier, mais que courir avec une bonne technique, avec une bonne foulée, c'est vraiment se construire, c'est pas ni se détruire ni se déconstruire. Et l'ouvrage nous explique, voilà, encore une fois, dans les moindres détails, comment la course à pied peut nous construire, peut nous faire du bien, peut nous rendre plus forts et sur le long terme. Et donc voilà, lui à 65 ans, il court encore et je crois qu'il n'a pas prévu de s'arrêter aux dernières nouvelles. Ouais.
Et ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est que tu disais, il a mis 30 ans pour parfaire sa pédagogie. Il explique, hein, comment il a fait une grande tournée des États-Unis pour rencontrer beaucoup de gens. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce qu'il explique, c'est pas juste sa technique à lui, c'est comment il enseigne ça aux autres pour les aider aussi à courir. Et il y a plein de témoignages de coureurs, dedans, justement.
Ouais, donc il a surfé sur le succès de Born to Run et tout d'un coup tous les projecteurs se sont braqués sur lui en 2010-2011, ce qui fait qu'il est parti pour 2 mois, je crois, à travers tous les États-Unis avec sa femme, son chien et sa voiture. Et il a organisé vraiment un grand tour avec, je sais plus, une centaine d'ateliers ou 200 ateliers, je crois. Il a formé, il a initié, des milliers de personnes à travers tous les États-Unis. Et comme c'est un mec qui fait ça vraiment, par passion, il n'y a aucun modèle économique derrière. Il est informaticien dans une université. C'est toujours des ateliers bénévoles, dans l'espace public, donc toujours de manière très informelle. Il a dormi chez les gens. Il a été nourri par les gens qui le recevaient et tout. Donc, il a passé 2 mois dans tous les États-Unis, vraiment de la côte est à la côte ouest, dans tous les sens, pour partager sa passion à des gens qui avaient besoin d'apprendre, parce que des gens qui, grâce à Born to Run, comprenaient qu'ils avaient une mauvaise technique et comprenaient que grâce aux pieds nus, ils pourraient éventuellement développer une meilleure technique. Donc, il y a vraiment il est persuadé que sa pédagogie peut servir au plus grand nombre, permettre aux gens de s'épanouir, que les gens sont passés à côté d'une évidence, que lui détient cette évidence et que la transmettre, c'est participer à un monde meilleur, vraiment. Hein, il est vraiment dans cette attitude-là. Donc il n'y a aucun modèle économique derrière ouais, il est passionné et en plus de ça, il est persuadé qu'il participe à quelque chose de bien et avec grâce au succès de Born to Run, il a pu comment on dit professer sa bonne parole à travers tous les États-Unis. Moi, je rêve, j'aimerais que demain on ait un regain d'intérêt pour la course pieds nus en France et puis qu'on invite Ken Bob Saxton et que le mec fasse le tour de la France, ce serait absolument génial. On aurait 1000 choses à apprendre de ce bonhomme, vraiment.
Non, mais en plus, quand vous aurez lu le livre, vous aurez envie d'aller courir avec lui un peu façon. Moi, je vois bien façon Forrest Gump, tu sais, où il y a une grande troupe de gens qui courent derrière
Ouais.
lui. Il y a une photo un peu dans les, dans, un peu dans cet esprit-là, en plus dans le livre, mais où on se dit, c'est vraiment le genre, quoi. C'est tu viens l'écouter, il te raconte des blagues, tu vas courir, puis tu te rends compte qu'en fait, ce barbu bedonnant, il t'en met sans avoir de faire d'efforts, t'as l'impression qu'il doit pouvoir courir des heures et des heures. Ce qu'il explique d'ailleurs hein, dans les courses, hein, parce que il faut le dire aussi d'ailleurs, il court pas que des marathons, parce qu'il a couru des trails aussi pieds nus.
Il a fait un 50 km de montagne pieds nus. Ouais. Je crois que c'était sa deuxième. Je vais refaire un peu l'histoire du bonhomme. Je crois qu'à 30 ans, il court un marathon en chaussures. Il se fait très très mal aux pieds à cause de ses chaussures. Il dit, moi, les marathons, c'est fini, plus jamais. Je passe à autre chose. Et puis petit à petit, il se met à courir pieds nus pour aller au travail, etc. Puis il rejoint un club de course. Il se rend compte qu'il est capable de courir des longues distances pieds nus, que ça marche très bien. Donc 10 ans après son premier marathon, il refait un marathon. Je crois que ça se passe très très bien. Et du coup, il s'inscrit pour un 50 km de montagne. Il y a du gravier, il y a tout. Et le mec s'en sort très très bien. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il montre à quel point en fait le corps est capable de choses. Et nous, on est là extrêmement limités. On trouve que c'est incroyable. Et le mec, wow, il a fait 50 km de montagne pieds nus. Et lui, il dit non, non, ben en fait, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Et en ce moment, alors j'ai pas son nom là, mais en ce moment, il y a un Marocain espagnol qui habite au Québec, qui est en train de faire des distances folles pieds nus, qui a fait un record de semi-marathon sur neige au mois de février. Karim El Ayami, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui fait des 100 km de montagne pieds nus et beaucoup de gens trouvent ça exceptionnel. Et lui nous remet à notre place en disant en fait bah il a grandi sans chaussures, du coup il a pendant l'adolescence il a construit des pieds pleinement fonctionnels et aujourd'hui il se sert de ses pieds de la manière la plus naturelle du monde. Donc en ça c'est je pense que c'est important de le relever ce que fait Ken Bob Saxton de courir 80 marathons sans chaussures, de courir d'un 50 km de montagne. Ça n'a rien de fou, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est exceptionnel aujourd'hui parce que la plupart des gens mettent des chaussures et du coup sont prisonniers de leurs chaussures. Mais en fait, ça fait partie des compétences humaines parfaitement normales finalement. Et ça, c'est important de le garder en tête. Ça n'a rien de fou, ça n'a rien d'incroyable, ça n'a rien d'extrême que d'aller courir pieds nus. Pour nous, c'est difficile parce qu'on a grandi dans une civilisation constamment chaussée dès l'enfance. Du coup, on a des pieds qui sont complètement à l'abandon. Mais voilà, lui nous montre, c'est ça, c'est un auteur qui parle avec sa propre expérience. C'est pas quelqu'un qui est en train de brasser du vent et juste de vendre des idées. C'est quelqu'un qui, pendant 30 ans, a mis son corps, a exploré les choses avec son corps et puis qui, à l'âge de 55 ans, nous livre sa compréhension des choses. C'est vraiment un ouvrage qui nous livre 30 ans d'exploration, de recherche, et en ça, c'est un ouvrage très rare, unique.
Et il me fait penser aussi un petit peu dans la. Je sais pas si tu connais Tony Riddle, qui est un Anglais qui court pieds nus aussi, qui avait fait des. Or, qui l'an dernier avait fait un truc un peu dingue avec deux marathons par jour pieds nus ou en chaussures sur les
Ouais,
terrains où
je
il
ne
passait.
connais pas les.
Mais qui fait d'ailleurs des formations sur comment retrouver comment courir pieds nus, les sensations, et notamment qui insiste beaucoup sur quelque chose que j'ai peut-être moins vu dans le livre, mais j'ai pas tout à fait fini, donc peut-être que je l'ai pas vu. Tony Riddle, il insiste beaucoup sur le fait que nos pieds sont devenus manque de souplesse. Il y a des trucs qu'on n'est plus capable de faire. Moi, je me suis fait une réflexion quand je regarde mes pieds, des fois, c'est plier les orteils. Parce que
Ouais.
en fait, c'est l'histoire là de, tu sais, il met un extrait de Piège de cristal. On lui dit. Ou dans le film, on dit qu'il faut plier les orteils, etc. Et je me suis rendu compte que il y a des mouvements que j'ai du mal à faire, en fait. J'avais du mal à faire, ouais, ou que j'arrive mieux à faire, etc. Et Tony Riddle, dans ses vidéos, il insiste beaucoup sur la souplesse du pied aussi. C'est une autre approche, mais de dire, bah, justement, les sensations, on peut les redécouvrir aussi par ça, parce que, en fait, comme le dit très bien Ken Bob, Barefoot Ken Bob, hein, c'est que tu l'as dit, hein, c'est un pied pas mort, vraiment mort, mais qui a perdu ses compétences.
Il a perdu beaucoup de compétences. Il est plus habitué aux sensations, du coup, il a du mal à décrypter les sensations. Ça, c'est une première chose. Ça se réapprend assez rapidement. Il a perdu beaucoup de force. Il y a beaucoup de muscles dans un pied. Moi, j'ai des pieds beaucoup plus musclés qu'à l'époque. Il a perdu beaucoup de résistance, notamment en termes de densité osseuse. On a des os qui sont très faibles dans le pied à cause de la chaussure. Et voilà. Et aussi, il a perdu beaucoup de dextérité et de souplesse. En fait, un pied, on peut observer ça dans le monde tribal. Il y a encore beaucoup de gens qui savent construire des objets avec deux mains et avec l'aide des deux pieds, donc ils savent encore utiliser leurs orteils pour attraper, pour saisir, pour grimper aux arbres, etc. Donc le pied, naturellement, a de très grandes compétences, et effectivement la dextérité et la souplesse, on les a perdues. C'est peut-être un élément qui manque au livre de Ken Bob. Il aurait pu proposer, je crois, tout un programme de rééducation du pied. Bon, il se trouve qu'avec les éditions Thierry Soukar, on travaille là-dessus, c'est quelque chose qu'on va explorer par la suite. Mais ouais, effectivement, moi, je fais aussi des exercices de préparatoires à la maison et qui sont pas dans le livre. Écarter les orteils, par exemple. Moi, j'aime bien mettre des bouchons de bouteilles de vin entre les orteils. Ça va venir écarter les orteils, et du coup, ça va permettre au pied une meilleure adaptation aux cailloux quand tu marches sur des terrains difficiles. Voilà.
Ouais. Et ça m'étonne pas, parce que alors Tony Riddle, il est un peu dans cet esprit-là. Il y a des éléments qu'il met. Et je suis abonné à un compte Instagram dont je me rappelle pas le nom, mais je le mettrai dans un autre épisode, où il montre des photos de coureurs pieds nus, mais y compris de tribus. Alors des fois, il y a les pieds des Raramuri, des Raramuri et compagnie, hein. Mais des fois, il y a des tribus de africaines, etc. Et on se rend compte qu'en fait, ils ont des pieds qui sont totalement différents des nôtres. Mais alors, vraiment, les orteils sont pas faits pareil. Déjà beaucoup plus écartés. Hein, c'est un truc qui est incroyable. Et moi, je m'étais fait la réflexion. J'ai regardé mes pieds cet été et je me suis dit, mais mes pieds, ils ressemblent pas à mes pieds d'y avant. Et pourtant, j'ai fait un peu de sandales, j'ai fait un peu pieds nus, etc. Et je trouve déjà que les pieds n'ont pas la même forme, et en tout cas la même largeur, j'ai envie de dire, c'est pas, ils sont pas devenus gros, gras ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont plus musclés.
Ouais, exactement, plus musclés. Alors moi, j'ai aussi observé sur mes pieds, je sais pas toi, une arche plantaire beaucoup plus prononcée. J'avais des pieds plats, et maintenant j'ai une belle voûte plantaire. J'avais aussi des orteils très très crispés. J'avais la boule des orteils qui touchait presque le pied, tu sais. Voilà, après 10 ans de course pieds nus, j'ai des orteils qui sont très loin du reste du pied, qui sont vraiment détendus et beaucoup plus musclés. Ouais, on construit du muscle. C'est une vraie transformation physique. Hein. Voilà, c'est assez inhabituel de parler de la rééducation du pied. C'est souvent une partie du corps qui est négligée, mais il s'agit bel et bien de reconstruire ses pieds, et c'est les fondations du corps. Il y a beaucoup de gens qui en fait se tiennent debout sur des pieds extrêmement faibles, et on comprend tous que c'est pas souhaitable. Et avec des fondations plus fortes, bah il y a tout le reste qui est soulagé. Donc ça a de très nombreux bénéfices, hein, sur la santé. Courir pieds nus, c'est bien parce que ça permet de courir mieux, mais après c'est bien aussi parce que voilà, on peut aussi parler de la circulation sanguine. Aller courir pieds nus, c'est un boost de circulation sanguine. Il y a beaucoup les varices, c'est un vrai problème chez beaucoup de gens. La chaussure n'est pas la seule responsable des varices, mais ne jamais stimuler le pied, c'est ne jamais stimuler la circulation sanguine par la pompe, l'effet pompe du pied. Voilà. En termes de bien-être, le pied nu, il n'y a pas que la course pied nu, mais la vie pied nu a de grands bénéfices. Ça nous apprend à être plus décontracté, ça nous apprend à beaucoup de choses. Et ça nous en a des pieds beaucoup plus en bien meilleure santé. Ouais.
Ouais, et ça, c'est l'histoire de la pompe du pied. C'est un sujet que j'ai abordé avec Caroline dans un épisode. Caroline Rowe, on avait parlé parce que,
ouais.
Justement, en disant que le fait de marcher pieds nus activait cet effet pompe, hein, et que le corps, il est prévu à un moment donné, il faut aider le sang à remonter vers le cœur. Donc,
ouais.
À un moment donné, le pied avait été aussi équipé des fonctionnalités pour le faire, que les chaussures ont une tendance à ne plus nous permettre d'utiliser. Hein. C'est ce qui permet aussi, c'est un des avantages. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, de tout ça, mais il y a beaucoup d'études, je pense, qui vont être faites. Et ce qui est intéressant aussi chez Ken Bob Saxton, je trouve, c'est qu'il rappelle quand même que le corps peut rester droit sans effort, normalement, c'est une question d'équilibre, et que ça commence aussi par le pied, et puis ensuite par toute la posture qui va suivre.
Ouais, il y a aussi un passage intéressant dans le bouquin, c'est... Je crois qu'il y a 4-5 pages sur les chevaux,
Oui.
sur la brigade de Houston aux États-Unis, qui petit à petit a fini par retirer tous les fers à leurs chevaux. Et parce que, pour plein de raisons, il y avait une raison de comportement. Ils se rendaient compte que les chevaux sans fer étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux, beaucoup plus obéissants aussi. Mais il y a aussi toute la question, encore une fois, on parlait du retour sanguin. En fait, le sabot du cheval. S'il est ferré et n'a plus sa liberté de mouvement, donc un peu comme le pied dans une chaussure en fait. Et du coup, encore une fois, il y a des problèmes de retour sanguin. Donc c'est pas un problème spécifique à l'homme ou à l'animal. C'est vraiment voilà, on est tous faits comme ça. Et venir bloquer une partie du corps, il y a forcément derrière un impact. Il y a des conséquences.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique pourquoi les chevaux étaient ferrés, hein, c'était pour éviter que les pieds pourrissent. Et ce qui montre que finalement, ce qui paraissait être une bonne solution à l'époque où ça a été inventé, s'avère après l'expérience et quand les gens l'étudient un petit peu, finalement, que ce n'était pas la bonne solution. Et c'est ce qui, finalement, je pense que ça peut être un petit peu, tu sais, un peu le bilan qu'on peut faire aussi des chaussures, de certaines chaussures, etc. C'est de se dire que
ouais.
Ce qui peut apparaître sur une bonne solution à un temps, finalement, on se rend compte que le corps avait peut-être déjà tout trouvé les parades et avait sûrement trouvé les parades puisque l'homme marche bien avant d'avoir eu des chaussures.
Ouais. Moi, je pense, j'ai compris le livre de Ken Bob aussi un peu comme une invitation à mieux comprendre comment utiliser les chaussures. Je crois que Ken Bob nous dit, voilà, la chaussure, c'est pas le problème. La chaussure, c'est bien, ça peut être utile parce que ça peut nous protéger de plein de choses, etc. Mais comment faire pour bien utiliser la chaussure? C'est avant tout construire une expérience pieds nus. Et une fois que l'expérience pieds nus est là, elle est solide, que la technique et que le comportement, tout ça est acquis, alors à ce moment-là, la chaussure peut nous permettre effectivement de courir des distances plus longues, d'aller sur des chemins plus difficiles. Je crois que Ken Bob Saxton, avec ce livre, m'a vraiment appris à mieux comprendre le bon usage d'un outil. Parce qu'après, on peut appliquer la même chose à plein d'autres choses. La chaise, c'est... Donc la chaise, c'est pareil, ça a de nombreuses conséquences sur notre corps. Et en fait, le problème, c'est pas la chaise, c'est le fait qu'on va jamais s'accroupir, qu'on va jamais s'asseoir en tailleur, etc. Donc je crois que pour moi, la grande leçon de ce livre, c'est ça, c'est de mieux apprendre à mieux utiliser les outils et donc à mieux utiliser la chaussure. La chaussure, très très bien, mais comment faire une utilisation intelligente de la chaussure en intégrant un entraînement pieds nus à ma course à pied. C'est
ouais.
Un grand apprentissage pour moi.
Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un chapitre sur les champions qui couraient pieds nus.
Ouais.
Et bien sûr, on a l'image, hein, et dedans il y a une image. On commence par la première image avec Abede Bikila qui court pieds nus le marathon de Rome en 1960. On a l'image de Zola Budd, etc.
Ouais.
Mais en fait, il y a un nom, et tous ceux qui suivent l'actualité, bien sûr, vont reconnaître. C'est Eliud Kipchoge. Alors rappelons
ouais.
qu'en plus. Le livre est écrit il y a 10 ans, hein, donc Kipchoge n'était pas encore le monstre de marathon qu'on connaît, etc. Et qui rappelle que finalement, ces personnes qui ont couru, qui ont appris à courir pieds nus, qui ont une utilisation du pied telle qu'elle devrait être et de leur corps telle qu'il devrait être, et ben, avec des chaussures derrière, ils savent justement, comme tu disais, encore mieux les utiliser parce que finalement, ils ont une mécanique de course qui est vraiment, on peut dire à ce niveau-là, parfaite, quoi.
Exactement, ouais. On parle aussi des champions dans le livre. Effectivement, on se rend compte qu'il y a, il y a de nombreux champions qui ont cette utilisation intelligente de la chaussure, c'est-à-dire que derrière il y a toute une pratique du pied nu. Ça me fait penser, on ne parle pas de Scott Jurek dans le livre de Ken Bob Saxton, mais on en parle beaucoup dans Born to Run. Et après, il y a Scott Jurek qui a sorti son propre livre, Hit and Run, je crois qu'il existe en français aussi.
Oui.
Et Scott Jurek dit bien la même chose. Voilà, moi je cours des distances folles en chaussures, mais toutes les semaines j'intègre quelques miles. Je crois qu'il en fait vraiment pas beaucoup. Hein. Je crois que c'est 4-5 km par semaine de pieds nus. Et cette expérience du pied nu me permet bel et bien, un, de construire tous les muscles nécessaires à une bonne foulée, mais en plus de construire la foulée la plus précise. Parce qu'un coureur d'ultra distance avec une mauvaise technique, c'est certain qu'il va se détruire. Plus la distance sera longue et plus la foulée sera mauvaise, plus les conséquences seront lourdes à payer. Et donc Scott Jurek, qui est pour moi un coureur très intelligent, il est kiné, il a une réflexion sur la course à pied qui est très chouette, nous dit bel et bien que voilà, c'est important de pratiquer du pied nu toutes les semaines pour maintenir, pour entretenir une précision, une délicatesse, une efficience. Donc il y a Ken Bob Saxton, le mec qui nous raconte tout ça, mais les champions, on va trouver des champions qui ont cette même intelligence et cette même approche de la chaussure et du pied nu. Et en ça, c'est un livre qui n'est pas sectaire. C'est vraiment un livre qui nous montre toute l'intelligence du pied nu et qui nous dit que bah, ça va nous servir à courir en chaussures, en fait. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais.
Ouais. Et j'ai trouvé une citation de Scott Jurek. Le pied nu ne doit pas souffrir d'une approche tout ou rien. C'est un simple outil qui permet d'améliorer l'expérience de la course, chaussée ou non. Tu sais où j'ai trouvé la citation ?
Non.
Sur ton site.
Alors, c'est le moment de faire de la publicité.
Exactement.
C'est génial, merci. Donc, moi, ouais, après avoir lu le livre de Ken Bob Saxton en 2013-2014, j'ai commencé à me poser plein de questions sur la chaussure, sur la chaise, sur l'usage du pied nu, sur les champions, sur Scott Jurek, entre autres. Et donc, j'ai écrit pendant 3-4 ans des articles sur toutes ces questions-là. Et mon blog, c'était un blog à l'époque, c'est accroupietpiednus.com ou .fr.
.fr, accroupietpiednus.fr. Alors, accroupi sans S, hein, pied nu avec un S. Ouais. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et j'ai trouvé une quantité d'articles dedans qui sont... Mais alors, enfin, franchement, j'ai mis tout un tas de trucs en mode... comment ça s'appelle, en favori dans mes archives, ouais. dans mes recherches. Parce que, en fait, ce que j'ai retrouvé, et c'est un peu le côté, mais je pense que ce que j'ai retrouvé dans tes articles, ce que j'ai retrouvé chez Ken Bob, ce que je retrouve chez Scott Jurek et chez plein d'autres, c'est le côté chercheur, en fait, un petit peu d'aller creuser la question, de se dire, il y a ça, mais comment est-ce qu'on finalement on creuse et comment on va faire de la recherche là-dedans pour affiner encore notre connaissance, pour l'améliorer, pour partager, etc. Moi, je dois le dire, hein, sur ton site, quand je suis tombé dessus, il y a nombre de trucs, je dis, oh, ça, il faut que je lise ça, faut que je lise ça, j'y serais passé la journée. Donc, ouais. J'encourage tout le monde à lire le livre, bien entendu. Hein. Je mettrai bien sûr un lien dans les notes d'épisode, d'aller voir ton site parce que il y a plein d'informations dessus. Et ce que je voulais dire, c'est que, enfin, on va finir quand même cet épisode par ce que toi, t'as des projets de course. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, en fait
Alors en ce moment, non, j'ai pas de projet de course parce que je suis dans un moment où, donc en plus du pied nu, je me suis passionné pour les postures naturelles, donc beaucoup pour l'accroupi, pour le tailleur. Et plein de choses comme ça. Donc, je suis dans un moment de mon expérience du corps où je fais énormément d'étirements. Je veux vraiment reconquérir mon accroupi. Je veux vraiment reconquérir mon tailleur, mon lotus. Donc là, cette année, la priorité, elle est sur la souplesse. Ce qui me permet pas de courir des longues distances ou des vitesses très rapides cette année. Voilà. Donc là, je me donne un an et demi pour tirer tous les jours. Je tire beaucoup. Je gagne beaucoup de souplesse en ce moment. Après, ma grande passion, c'est courir, et c'est courir pieds nus. Très rapidement, dans moins d'un an, je reviens à la course. J'ai fait une vingtaine de semi-marathons pieds nus, parce que c'est une distance qui m'a été rapidement accessible. J'ai pas encore fait de marathon pieds nus, parce qu'à l'époque, mes pieds me permettaient pas de courir 42 km sur du goudron. Après 10 ans de pratique régulière, mes pieds sont capables de faire le marathon. En ce moment, c'est les jambes qui sont pas capables, mais un des objectifs là sur le moyen terme, c'est le marathon sans chaussures, parce que je trouve ça tellement beau comme idée. C'est quelque chose que je veux concrétiser très rapidement. Donc là, c'est pas la priorité sur le court terme parce que voilà, je suis sur les étirements, le yoga beaucoup. Je sais pas, dans un an ou deux, ouais. À l'image de Ken Bob Saxton, courir un marathon ou plusieurs marathons pieds nus, c'est vraiment c'est quelque chose de très beau, je trouve. C'est un très bel objectif, ouais.
Ouais, et ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et toi, sur ces histoires d'étirement, c'est vraiment aussi Tony Riddle qui est vraiment dans cette optique-là où justement, alors il a même une formation sur comment est-ce qu'on se remet accroupi. Alors moi, ce que j'ai essayé, c'est j'en suis totalement incapable. Et c'est là où je me dis que j'ai perdu. Mais façon short de ma kiné, juste avant, j'étais chez la kiné qui m'a dit que j'étais un gros bâton bien raide, mais ouais. Vraiment très 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 raide. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mal partout certains jours. Ouais. Hein. Donc on sait qu'on doit aussi récupérer cette souplesse du corps, que si le corps était souple comme ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est tu vois, dans les chercheurs, je pense que Scott Jurek aussi, on peut le rentrer dans les chercheurs de l'idéal, hein, de la course, ouais. Du sport, de la vie en fait.
C'est un garçon passionnant, Scott Jurek. Ouais, ouais, c'est un champion qui cogite beaucoup. Et voilà. Et donc avec les éditions Thierry Soukart, on est en train de travailler sur ces thématiques-là et on espère bientôt publier des choses. Voilà.
Et ben voilà. Et ben écoute, tu sais ce qu'on va faire. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, Sylvain, je te remercie beaucoup parce que c'était passionnant de découvrir. Alors, à la fois le personnage Ken Bob, Barefoot Ken, on va l'appeler. Tous les coureurs de Barefoot, ils ont tous un nom en Barefoot quelque chose en fait.
Ouais, aux États-Unis au moment de Born to Run, c'était ouais. La grande tendance. Une fois qu'on avait fait sa première course pionnier, on se mettait Barefoot quelque chose. En France, on le fait pas trop, je crois.
Ouais. Bon, bah Barefoot Sylvain, en tout cas, je te remercie parce que d'avoir déjà traduit le livre, parce que ça le rend beaucoup plus accessible, et notamment d'avoir réussi à retraduire son humour, parce que les Ken Bobismes et ses petits aphorismes, tout. C'est vrai que sur le site, il y en a plein, mais il faut saisir un petit peu les choses et d'en avoir traduit certains dans le livre, c'est vraiment génial parce que ça permet de comprendre son humour. Et puis il y en a vraiment qui sont vraiment, qui sont vraiment très drôles. Et puis sur lequel c'est le principe de l'aphorisme, on sait pas quoi répondre parce que ça paraît tellement logique une fois que c'est dit comme ça que on n'a plus qu'à réfléchir à penser à ça. Donc déjà merci pour la traduction du livre, merci aussi pour cette discussion et je vous encourage tous. Alors il y a le livre, bien sûr ton site Sylvain hein, qui est admin et sur lequel il y a des informations qu'on retrouve pour ceux qui s'intéressent à la course pieds nus justement, de comment tout ça fonctionne, etc. Bien sûr le site de Ken Bob parce que il a un site qui est, on peut dire, très à l'ancienne hein, dans le look.
Son image.
Ouais. Faut juste rappeler en fait que il a fait son site en 97, quelque chose comme ça.
Exactement.
Et que mon premier site internet devait ressembler un peu à son site à lui, sauf que moi je l'ai changé depuis. Mais que lui, il est resté dans cette logique-là. Mais par contre, il a une caractéristique, c'est que son site est à jour, est vraiment très à jour, hein, puisque il annonce la sortie du livre, il annonce des courses, il annonce plein de choses comme ça. Donc il y a le site qui est à jour. Il y a des communautés qui se mettent autour. Hein, quand on suit un petit peu tous les liens, on trouve toutes les communautés autour pour tous ceux qui veulent creuser. Il y a vraiment beaucoup de choses à creuser et je le redis, hein, même si vous n'avez pas envie de courir pieds nus beaucoup, eh ben, en lisant ce livre, vous allez comprendre comment fonctionnent vos jambes quand vous courez. Bon, en tout cas, sur ce, merci encore une fois Sylvain pour tout ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, hein, ce sera la surprise, mais en tout cas, vous verrez qu'on va encore voir une autre vision de la course à pied, du sport et du mouvement. Merci à toi Sylvain.
Merci beaucoup Bertrand.
Et à bientôt, belle semaine à tous.
Au revoir, salut.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.